Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Avec le hashtag Pajol, qui fait référence à la halle Pajol, où s'étaient réfugiés les réfugiés, on apprend sur Twitter que le comité de soutien aux migrants de la Chapelle a récolté en 18 jours plus de 6 000 euros. Le soir, on demande sur le site de microblogging des arabophones diplomates pour la nuit. Plus tard, on lit « Besoin urgent d'eau, de lait, de fruits, de tomates, de thon, pain, verre en plastique, merci ». Depuis l'évacuation du camp gigantesque qui s'étendait sous le métro entre la Chapelle et Barbès, sur la toile et dans la vraie vie, des habitants, bénévoles, riverains, avec ou sans emploi, se sont montrés solidaires, actifs, se sont opposés physiquement ou pas aux violences et autres expulsions plus ou moins musclées. Ils ont aidé comme ils pouvaient. Lundi, la police a procédé à l'évacuation du parvis de la halle Pajol, donc, dans le 18e arrondissement de Paris. L'association Bois Dormois a ouvert en urgence les portes de son jardin partagé, aidé par les riverains aussi, pour accueillir près de 80 migrants. Raphaël Kraft, qui suit la question des migrants avec le plus grand soin, tweetait hier « Opération de nettoyage, pas évacuation au square Gessin aujourd'hui, selon officier de la sécurité de mairie de Paris ». 3 semaines d'errance, 7 expulsions, évacuations pour les migrants et réfugiés. Aujourd'hui, dans les pieds sur terre donc, suite de l'opération spéciale Parole de migrants sur France Culture, nous sommes au square Gessin et c'est un récit de Rémi Douat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
On est au square Gessin, dans le 18e arrondissement, au métro La Chapelle. Tout près de l'endroit où 400 migrants s'étaient réfugiés pendant un an. Depuis l'été 2014, ils étaient là, accampés sous les rails de la ligne 2 du métro. Et aujourd'hui, ces migrants ont été évacués et ils se sont éparpillés dans l'arrondissement. Et là, donc, juste en face où je suis, et il y a là une quarantaine de personnes. On les voit escalader les grilles de ce petit jardin parce que les grilles ont été fermées pour entrer et sortir. Vous êtes du quartier, monsieur ?
J'habite en face.
Et vous habitez sur la place de la Chapelle, là ?
Et là-bas, je suis en face de ce pont-là. Et sur le pont, il y a eu pendant un an, entre, ça a commencé avec 200 personnes et ça s'est fini avec 400 personnes. Et de temps en temps, attaqué, expulsé, et toutes les affaires déchirées pour la police. Et c'est une persécution continue. Et aujourd'hui, il y a des petits groupes, ici il y a 60, mais à la fois, ces gens-là, ils sont dans la peur, parce que peut-être aujourd'hui, ce soir, la police arrive, ils sont attaqués et jetés dehors, et ça continue. Et là-bas, il y a un groupe d'Érythrée, un deuxième groupe de l'Éthiopie et le troisième de Soudan. Ce sont les trois groupes qui habitent là-bas en ce moment.
Vous les connaissez tous là ?
Tous. Regardez, presque 60 personnes qui sont absolument démunies. Abandonné par l'État. Il habite par terre. Et c'est un jardin plein de rats. On a vu cette tragédie. On s'est réuni avec des citoyens du quartier et on dit on va faire quelque chose. Les citoyens viennent et ils donnent des petites choses pour manger. Et les choses qu'on peut faire, c'est faire du thé pour 60 personnes. Il y a l'armée du salut à côté, et avec l'église Saint-Bernard, on a travaillé toute l'année pour loger des personnes pendant l'hiver, pour trouver des petits médicaments qu'on peut acheter en pharmacie. Il y a une pharmacie qui s'était solidarisée avec nous. Et on a passé toute l'année comme ça, mais on a fait un appel fort à l'État, à Médecins Sans Frontières, et personne n'est venu. Et à la fin, on a mis ça sur la presse, à la radio, pour dire où sont les médecins du monde, les Médecins Sans Frontières, l'État, parce qu'il y a une infection grave, la gale. Et à ce moment-là, on avait détecté 70 personnes avec la gale. Et ces gens-là, ils vont contaminer des autres. Et ça se multiplie. La réponse qu'on écoutait toujours, on ne peut pas guérir toute l'Afrique ici. Mais l'hôpital Saint-Louis, on a fait une pression avec Emmaüs, avec la Ligue des droits de l'homme, avec la mairie du 18e, et à la fin, il accepte avec beaucoup de tension 4 personnes. 4, pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est plus calme parce que si Médecins du Monde, ils se sont réveillés, ils sont là de 15h à 18h. Et on est plus calme, ça veut dire que ce n'est pas à moi de gérer la santé. Je m'appelle Pedro Pablo Naranjo, je suis comédien. En ce moment, je suis français, mais mon origine, c'est la Colombie.
Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant?
Maintenant, il y a une personne qui va à la maison pour lui faire la fiche et voir si on peut l'amener demain à l'hôpital.
On est chez vous ?
Oui.
C'est des habitants du quartier qui déposent des victuailles pour les Érythréens d'en face.
Oui.
Des bananes, des boîtes de thon.
Voilà. Ok.
Merci.
Ok, très bien.
Bah, vous donnez par la fenêtre.
Oui. Et voilà, ici, tout ça, c'est des médicaments. Des vêtements pour les malades. Et on travaille avec deux infirmières. C'est les infirmières qui décident quel médicament on doit donner ou pas.
Donc vous mettez des gants?
Dara, here?
Non.
Ok. Et on contrôle partout. Voilà, c'est ok. Vous voyez ça? Ça, c'est la gale qui s'est développée. La regardez, il y a, ça commence à se développer très fort dans les jambes. Il y a les boutons partout, ici.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
La première chose, c'est que j'ai fait une fiche et on l'amène demain à l'hôpital Saint-Louis. À l'hôpital Saint-Louis, c'est très bien. Il y a une douche qui s'appelle T120. On se charge de changer ses vêtements. Et il faut désinfecter tout ou le mettre à la machine à laver à 60 degrés. Et on s'assure que tout va bien pour que ça ne se répète pas. Voilà.
Non. Les noms. Ok. Lait. Un lait. Un lait. Deux laits. Deux laits. Trois laits.
Trois laits.
Trois laits.
Quatre laits.
Quatre laits.
Quatre laits.
Cinq laits.
Cinq laits.
Ok.
Qu'est-ce que vous faites là?
On essaie d'apprendre les nombres. Je leur ai déjà appris à se présenter et à dire d'où ils viennent. Et là, on essaie d'apprendre les nombres. Et en même temps, j'en profite pour apprendre un peu aussi.
Qu'est-ce qui a apporté ce lait? C'est des voisins?
C'est un monsieur qui n'est jamais venu et il a apporté plein de choses. Je sais pas ce qu'il faisait. Il a apporté plein de lait, du papier toilette, des vêtements, des jouets pour les enfants. Mais il n'y a pas trop d'enfants. de la soupe. Il avait aussi des pâtes, tout ça, mais ils peuvent pas faire cuire ici. Voilà, il a apporté ça tout à l'heure. Et il était jamais venu. Et les gens qui donnent de la nourriture, souvent, ils donnent par-dessus les barrières. Donc moi, je reste à l'intérieur et je distribue après.
Vous êtes d'une association ou...
Non, je suis étudiante et je suis venue de moi-même pour voir comment ils vivaient. Et j'ai remarqué qu'ils avaient personne parlait français et ils ont besoin de parler français. Donc voilà, j'aide, mais en même temps, je les occupe un peu pour qu'ils passent un peu de bon temps parce que c'est pas facile. J'aimerais bien faire de l'humanitaire, mais en fait, il y a assez de choses à faire à Paris. Donc je savais qu'ils étaient à la chapelle, je savais pas où. J'ai cherché un peu et j'ai rencontré des filles qui faisaient la queue pour les toilettes dans la ville. Et voilà, j'en ai rencontré une et après, j'ai escaladé les barrières et voilà.
Et alors ces jeunes filles avec qui vous êtes, elles viennent d'où? Elles font quoi?
Elles viennent d'Éthiopie. Elles sont de passage, je pense. On n'a pas encore beaucoup parlé, mais je crois qu'elles veulent aller en Angleterre. Pour la plupart, ils veulent tous aller en Angleterre. Et elles attendent, elles n'ont pas leur famille. Elles m'ont demandé d'appeler leur famille, tout ça.
Comment vous appelez?
Hortense.
Bon, mais je vous laisse continuer le cours, alors.
Merci.
Moi, tu connais bien, Francis, moi, tu connais bien. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5.
Oh, ah bah, et après alors 6. 7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
Quel âge as-tu?
Umra Kam.
Ah, Khamsu Shri.
25. 25, j'ai 25 ans.
J'ai 25 ans. J'ai 25 ans.
Do you want?
My name is David.
Je m'appelle David.
Where do you come from?
I'm coming from Ethiopia.
Moi, je viens d'Éthiopie.
Where is your family now? And what are they doing?
They are staying there.
Et ma famille est restée en Éthiopie.
You should have to arrive Khartoum. You
know, d'abord aller à Khartoum,
Sudan.
La capitale du Soudan.
After Khartoum, there is the biggest, our world biggest desert, Sahara.
Ensuite, il faut affronter le Sahara. Traverser le Sahara, c'est le voyage le plus dangereux que vous puissiez faire.
We talk about after that, but there is a complicated problems in Libya. Libya is not a stable country.
Alors ensuite, nous avons pris un bateau, mais d'abord il y a la Libye. La Libye, c'est pas un pays stable. La cruauté y règne.
Because they rape most of our sisters. They killed half of us, our brothers. You know that?
Nos sœurs sont violées là-bas et les hommes, ben, ils les tuent.
We were in jail, by the way.
You were in jail in Libya?
Jail, yes. Year and 2 months.
Nous sommes allés en prison, par exemple. On y a été 1 an et 2 mois. Elle aussi, là, qui est là, elle a été en prison avec moi.
They have not any reason. If they want to take you to jail, he can take you.
En Libye, pas besoin de raison pour te mettre en prison. S'ils décident de te mettre en prison, ils te mettent en prison.
The jail, there is maybe sometimes they have a job.
On peut même vous tuer sans aucun motif.
You can escape from that as much as possible.
You
yes.
You escape too. Okay.
Yes.
Alors moi, je me suis échappé de prison. Elle aussi.
Females can escape. There is one way.
Et pour les femmes, il y a une bonne manière de s'échapper.
Some militaries ask to her.
Quand elles sont en prison, les militaires leur demandent si elles veulent faire le ménage chez eux.
If she says yes, okay, she escape from the jail to he takes her to his home.
Alors elles peuvent sortir de prison pour aller chez les militaires faire le ménage et s'échapper.
After that, she can escape from his
house. Et à partir de là, elles peuvent enfin vraiment fuir. C'est ce qu'a fait la fille qui est là avec qui j'ai voyagé.
After Libya, there is a boat. We are 94 in one plastic boat.
Alors ensuite, on a pris un bateau. On était 94 sur un tout petit bateau en plastique.
There is a rescue after the voyage of 14 hours.
Et il nous a fallu 14 heures pour rejoindre les eaux internationales et ensuite on a été secourus.
They take us and after on that time it's very dangerous for us.
Mais avant ça, c'était vraiment dangereux. On a passé notre temps à enlever l'eau, à y couper.
Because the boat was sinking.
L'eau rentrait et le bateau coulait. Et sa traversée nous a coûté très cher, $1,000 par personne.
What do you plan to do now?
I want to go to the UK. After that, I make an asylum to the...
Maintenant, je veux aller en Grande-Bretagne. Je veux demander l'asile politique au gouvernement britannique.
There is no favorite situation here in France.
Parce que la situation ici est vraiment trop difficile. On n'a nulle part où aller, rien à manger. pas un centime dans les poches. Comment est-ce qu'on peut survivre?
Now we are sleeping here, eating here. There is no toilet, no shower. We are a human being.
Vous voyez maintenant, on dort ici. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de lit. On est des êtres humains.
So most of French people are very fine and they thanks to them because they are helping us now. But what about the government?
Beaucoup de gens, des Français, viennent ici, nous aident. Ils nous donnent de la nourriture, des vêtements et parfois un peu d'argent. Mais le gouvernement, qu'est-ce que fait le gouvernement?
The government must manage immigrants.
Comment survivre ici sans une vraie politique d'aide aux réfugiés?
I don't expect like this.
Je ne m'attendais pas à trouver une telle situation.
Maybe because it is one of the greatest European country, France. How can I imagine it?
La France est un des plus grands pays européens. Comment j'aurais pu imaginer ça?
Even one of African countries, we can survive like this.
Même dans un pays africain, on ne survit pas dans des conditions aussi terribles.
Voilà, moi, le but final, c'est pas la France. Maintenant, en France, la situation des Érythréens, c'est trop difficile, je l'ai entendu. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de partir ailleurs, soit l'Hollande, ou en Suède, ou en Norvège, parce qu'en Norvège. Là-bas, au moins, je peux trouver des compatriotes qui peuvent m'aider. Mais ici, en France, il n'y a personne qui m'aide. Moi, je suis à la rue. Arrivé en France, ce n'était pas ma destination, mais j'ai plus de billets. L'argent que j'avais, j'ai tout terminé. Et donc, je retrouve sans l'argent et je me retrouve dans la rue. En Érythrée, voilà, le pays... Il a engagé dans un processus de service militaire indéterminé. Et puis voilà, c'est ça qui pousse à partir le pays. Et en étant dans le service militaire, ils gagnent presque 5 euros à faire dans l'industrie, dans l'agriculture, etc. Et donc ils sont devenus en quelque sorte d'esclavage. Et donc d'esclavage moderne et d'esclavage qui travaillent pour l'armée.
À une durée indéterminée.
Indéterminée, tout à fait. On s'engage, mais on ne sait pas quand il va arrêter. Parce qu'il n'arrête jamais. Et donc, voilà, les gens, ils ne peuvent même pas prendre permission pour revoir leur famille quelquefois. C'est vraiment trop difficile. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils fuient. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger. Son cousin ou son copain ou son voisin, il se trouve en Norvège ou en Suède, ça l'attire de plus, donc de partir et de fuir le pays. Et voilà, c'est ça qui l'amène vers l'Europe. Je m'appelle Abouch et j'ai 26 ans. Je suis arrivé il y a 25 jours. Je suis un Roman, donc un Roman, c'est un tribu. Qui lutte contre le pouvoir actuel en Éthiopie. J'étais en prison pendant presque 12 ans, mais j'étais condamné à 12 ans et 6 mois. Mais avant de terminer ma peine, donc je suis évadé. J'ai quitté le pays à pied jusqu'à le Soudan, donc avec beaucoup de difficultés parce que si jamais ils m'attrapent ou je retourne au pays, ils vont me punir et je vais être en prison toute ma vie. Au Soudan, je croyais trouver une situation meilleure, mais au Soudan, c'était aussi difficile. Je partais d'un endroit à l'autre, j'ai travaillé un petit peu pour financer mon voyage vers la Libye. En Libye aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Dans ce pays, je croyais que de voir des libertés ou de trouver du travail, mais c'était le contraire. Parce qu'en Libye, il y a une question de religion, donc ils te demandent de quelle religion tu es. Si tu lui dis que tu es chrétien, déjà, ils t'amènent soit à la prison, soit ils te gorgent. Voilà. Et de là que j'ai décidé de partir vers l'Europe. Je demandais à droite, à gauche, à des amis, et ils m'ont envoyé de l'argent, et par ce billet, je suis arrivé en Italie. C'était trop difficile, voilà, dans le bateau dont on a traversé, parce qu'on était presque 300 personnes. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui étaient malades, et moi-même je suis malade, et même ici, maintenant, j'ai encore des séquelles. Même j'étais voir le médecin, il m'a dit de ne pas dormir dehors parce que ça va m'amener vers d'autres maladies. Et ma situation aujourd'hui même, il ne me permet pas de rester là où je suis. Je dors dans ce matelas que vous voyez devant vous, tout sale, le seul moyen que j'ai pour ne pas dormir par terre. Donc dans cette situation-là, j'ai pas d'autre moyen que de devenir fou. J'attendais pas ça, cette situation-là, et surtout, c'est pas le but, parce que je voulais partir vers l'Angleterre. J'aimerais aller en Angleterre parce que j'aimerais étudier. C'est la seule chose que je souhaiterais faire. J'aimerais étudier la mécanique.
Est-ce que vous avez des contacts avec votre famille en Éthiopie ?
Ma famille, depuis que je suis parti, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est mon frère, il est en prison parce qu'ils ont dit, où est-ce qu'il est votre frère, c'est comment il a été évadé de prison. Et donc, pour cette cause-là, ils ont amené mon frère. Et ça, c'est une situation qui me fait pleurer.
Yeah.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, opération spéciale Parole de Migrants sur France Culture. Un reportage de Rémi Douat au Square Gessin, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Joanne Rosier, à Adam Salé, à Delphine Deloger, à Dave, à Pablo, à Hortense et bien sûr aux réfugiés du Square Gessin. Valérie Bors, c'est l'attachée de production qui remplace en ce moment Sandrine Chaperon, qui reviendra la semaine prochaine. Merci à toute la chouette équipe des Pieds sur Terre. À 16h30, les nouvelles vagues de Marie Richeux poursuit sur cette thématique des migrants avec une émission intitulée « L'élan collectif, écriture virale et information d'urgence » où vous pourrez entendre notamment Raphaël Kraft qui est documentariste, Martin Colombet et Julien Mignot qui sont photographes et qui ont participé à la couverture médiatique des récentes évacuations des établissements de Caen et autres assemblées de migrants à Paris. À 18h15, le magazine de la rédaction sera quant à lui consacré aux migrants érythréens. Et ce sont des reportages de Chloé Cambrelin. Voilà, c'est fini pour Les Pieds sur Terre, 12e saison. On se retrouve à 13h30, comme d'hab, le 31 août, pour une nouvelle saison des Pieds sur Terre. Mais à partir de demain, nous prenons nos quartiers d'été avec un ensemble de rediffusions que j'ai concoctées spécialement pour vous et que j'ai classées par année de 2002 à 2009, une année par semaine. Ce sera tous les jours de la semaine à 14h30. À 13h30, donc en lieu et place des Pieds actuels, vous pourrez entendre la suite de la grande table estivale qui se poursuivra jusqu'à 14h tout l'été, présentée d'abord par Maëlys Bessery, puis par Martin Kénéen. Je vous souhaite un bel été à l'écoute de France Culture. Il n'y a pas que les Pieds sur Terre.